Paix et grâce à vous. C'est une salutation que, en Israël, elle était souvent adressée. Et nous savons que le peuple d'Israël, eh bien, était souvent en but aux hostilités, aux difficultés, à la guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup de chrétiens doivent, dans les pays troublés, des gens qui sont réfugiés et tout, eh bien, cette salutation doit aussi être courante chez eux. Et moi, je vous dis ce matin aussi que la grâce et la paix vous soient données. En vous accueillant par ces mots, je fais référence à notre Seigneur qui seul peut donner la grâce et la paix. Je serais bien incapable moi-même de vous la donner, cette grâce et cette paix. Mais je sais que Jésus-Christ, Fils de Dieu, peut vous l'accorder. Et c'est mon vœu, bien sûr, que chacun de vous soit là ce matin avec le cœur en paix, vraiment libéré des soucis de la semaine, libéré pour vraiment entrer dans ce culte et que le Seigneur puisse nous bénir pendant ce culte. Et en Israël, quand il était dit « paix et grâce à vous », eh bien, la personne répondait « sois béni de l'Éternel ». Et c'est ce que je veux aussi pour chacun de vous ce matin, que l'Éternel vous bénisse. Nous chanterons, ça permettra aux personnes qui ont du retard de nous rejoindre, et nous chanterons le numéro 400.
Ta fidélité, tout est à
place. Nous voulons invoquer la présence de notre Dieu par la prière. Oui, Seigneur, nous savons que c'est toi qui nous as d'abord invités, mais Seigneur, nous voulons que ta présence soit manifeste dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Et Seigneur, nous te bénissons pour la paix vraiment que tu accordes à notre pays. Et nous voulons associer tous ceux qui sont privés de cette paix. Seigneur, chacun de tes enfants qui regardent à toi et qui te prient, Seigneur, nous voulons te demander de les bénir aussi en cette journée. Merci de tout ce que tu nous donnes. Amen. Le thème de ce culte sera centré sur le royaume. Je dirais que déjà lors de la création, Dieu mit l'homme au centre de celle-ci et il a été appelé à dominer sur les animaux, sur la création en étroite collaboration avec Dieu. Eh bien, oui, Dieu a voulu fonder un royaume pour que sa création puisse vivre en paix. Et je remercie les musiciens qui vont nous accompagner. On aura ce temps de louange et nous chanterons d'abord le chant 414. Grande et merveilleuse. Dieu s'est appuyé sur Israël pour bâtir les fondements d'un royaume, témoignage de l'amour de Dieu. Mais là aussi, ça a été difficile et nous chanterons le 383. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Mais nous savons que tout ne s'est pas arrêté là, devant l'échec du peuple d'Israël. Dieu envoie Jésus-Christ, son Fils. Jean-Baptiste peut annoncer que le royaume des cieux est proche. Et nous chanterons le 388. Depuis la naissance de Jésus, des années y ont passé. Le royaume porté par Jésus a encore une fois été rejeté. Sa mort peut paraître comme un nouvel échec de la volonté de Dieu. Nous savons que sa résurrection est le signe que son royaume est en marche, non physiquement sur terre, mais spirituellement dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est ce que Dieu nous demande, c'est de manifester son royaume personnellement. Je crois que le message portera sur cet aspect que personnellement nous pouvons porter le royaume de Dieu. Et nous chanterons le 434, « Jésus, nous célébrons tous ta victoire ».
Nous avons
Vous pouvez prendre place et nous aurons maintenant les lectures qui accompagneront le message.
Nous lirons deux textes dans la version du Semeur, la première tirée de Marc 4, 26 à 32. Il dit encore: il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore: à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et un autre texte, dans Éphésiens 4, versets 11 à 16. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur.
Bonjour, chers amis. Michel a évoqué l'idée que le thème de notre méditation serait le royaume. C'est le royaume, mais à l'intérieur de nous, pas le royaume qui vient, que le Christ va établir, mais celui qui est en nous, qui est un peu la croissance spirituelle. Et dimanche dernier, Denise Félix nous disait que notre pasteur lui avait suggéré de parler des gens que la Bible mentionne de manière succincte, brève. Et j'ai pensé aux nombreuses personnes auxquelles la Bible fait allusion, mais de manière anonyme. Tous ces gens qui n'ont pas de statut de leader spirituel, qui ne sont pas des vedettes spirituelles, qui n'ont pas l'envergure théologique d'un apôtre Paul, ou qui n'ont même pas un ministère connu ou en vue, les normaux, nous. Et notre méditation visera à poser quelques jalons sur ce chemin qu'on appelle la croissance vers la maturité spirituelle. Et nous ferons quelques parallèles avec la croissance naturelle et la croissance spirituelle. Dans un premier temps, nous examinerons cette petite parabole agricole. En fait, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, puisque nous avons des agriculteurs parmi nous. Mais cette parabole relative au grain de blé, qui s'applique dans son contexte évidemment au royaume, mais aussi au développement spirituel. Et dans un second temps, nous observerons que le nombre 40 est fréquent dans la Bible et possède peut-être une signification allégorique à notre croissance spirituelle. On ne va pas donner dans la cabale, mais on va quand même se pencher sur le sens de ce chiffre. On utilise volontiers le mot « croissance » pour les organismes vivants qui nous entourent, nos enfants, les animaux, les plantes. Parce qu'à première vue, croître, c'est grandir. Ces deux mots sont synonymes dans le langage courant. Et la croissance de nos enfants est visible par un changement de leur taille et suscite un peu nos préoccupations jusqu'à leur âge adulte, de 15 à 20 ans environ. Mais la croissance, bien qu'elle paraisse un phénomène automatique, ne va pas toujours sans souci. Combien de parents n'éprouvent-ils pas de soucis, de préoccupations, parce que leur enfant, par exemple, ne mange pas facilement? J'évoquais cette situation avec des amis dont la petite fille, elle a tendance à trier, et puis les légumes, elle n'en veut pas. Et ou bien les enfants sont trop gloutons, ils veulent tout le temps manger. Et nous avons un petit-fils que nous aurons le plaisir de fêter ses 5 ans aujourd'hui même. Lui, s'il pouvait toujours choisir son régime, serait les saucisses, les petites saucisses d'apéritif, le fromage et le chocolat. Ça, il mange. Hein. Alors bonjour les vitamines. Donc, il a un petit frère et le petit frère, la maman demandait au médecin, au pédiatre, pourquoi il semble prendre moins de poids là après 6 mois à peu près. Pourquoi il grossit plus tellement? Et le médecin lui a répondu, madame, si votre enfant continuait à prendre du poids comme pendant ses 3 premiers mois, il pèserait 100 kilos à 4 ans. Donc on se rend compte que le développement, ce n'est pas un beau fleuve, tout droit, tout beau. Heureusement qu'un arrêt de notre croissance naturelle survient vers nos 15-20 ans, période de notre vie, fin de l'adolescence, où notre poids et notre taille se fixent et n'augmentent plus, sous réserve du poids, qui est un peu plus variable que la stature, mais la stature, elle va plus tellement changer. Ces soubresauts sont aussi valables dans le domaine végétal. Nos amis qui travaillent l'agriculture auraient beaucoup de choses, en tout cas, à nous dire aujourd'hui sur la croissance des végétaux et les aléas qui peuvent survenir en fonction de la météorologie, du froid, du chaud, etc. Et c'est leur préoccupation que la croissance de leur culture. Retenons que la croissance est un processus qui fait passer progressivement d'un état incomplet, inachevé, vers un état final, achevé et fonctionnel. Sur le plan biologique, on considère que l'état achevé, la maturité, est le plus souvent l'aptitude à la reproduction, pour les plantes, pour les humains, etc., pour les animaux. Il faut encore ajouter à ce schéma quelque chose d'important. La transformation vers un état achevé et fonctionnel implique aussi un perfectionnement progressif d'un organisme que l'on qualifiera volontiers d'évolution. La plante, l'individu, l'animal évolue vers un état mature. C'est aussi pour souligner qu'un petit enfant n'est pas du tout un adulte de taille réduite. Il ne peut rien assumer. Il ne peut même pas survivre sans les soins permanents de ses parents ou de ses éducateurs. Il a besoin de beaucoup de choses, de relations, etc. Et il avancera de progrès en progrès jusqu'à sa maturité physique où il pourra envisager l'autonomie qui est en fait une interdépendance avec les autres. Alors, à la lecture de nos textes, on peut tirer un parallèle entre ces croissances biologiques et spirituelles. C'est comme si il y avait en plus de notre biologie, nos cellules, notre métabolisme, il y avait en nous un embryon, une sorte d'embryon spirituel dans l'être humain. Un embryon spirituel, spécificité humaine, que nous pourrions qualifier de pensée de l'éternité. C'est pas très formel, mais c'est dans tous les gens. Et une pensée informelle de survie au-delà de la vie terrestre, de notre vie physique. Voir par exemple les illustrations extraordinaires des Égyptiens de l'ancienne Égypte par rapport à leur représentation de l'au-delà avec la barque de la mort, enfin c'est extraordinaire. Donc cet embryon spirituel est prévu dans l'être humain pour grandir, se structurer pour le moins, avec des aléas, jusqu'à éclore à notre conscience par une nouvelle naissance aux réalités de la foi. Et cette pensée informelle d'origine qui provoque beaucoup de tâtonnements, c'est un peu la source de toutes les religions. Et donc, suite à cette naissance spirituelle, de nature spirituelle, l'enfant spirituel qui est en nous doit croître vers un état d'adulte. Et c'est un beau schéma, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Reprenons très brièvement notre comparaison entre biologie et spiritualité. Le grain de blé doit être inséré, doit être mis dans de la terre qui doit lui permettre de s'enraciner et en fait de se nourrir. On peut lui adjoindre un petit renfort en engrais, ou on peut l'aider à se battre contre des parasites ou des autres herbes concurrentes avec des produits chimiques. Mais il lui faudra aussi non seulement ce qu'on fait pour lui, mais des influences, et des influences qu'on ne peut pas contrôler, qu'on espère, mais qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, la température, la quantité de pluie, la quantité de lumière. Et pour un humain un peu plus complexe qu'un grain de blé, ben le schéma est un peu semblable. Il faut un milieu nutritif, de la protection, et il faut des influences dont certaines nous échappent. Soulignons au passage que tout parent, dans le biologique, donnera des choses, des denrées adaptées à la capacité d'assimilation de son enfant. Comme parent, on est gentil, mais pas fou. On ne va pas donner une fondue, si délicieuse soit-elle, à notre enfant d'une année. Et comme le disait Jésus d'une manière un peu plus châtiée que moi, quel père donnerait un caillou ou un serpent à son enfant s'il lui demande du pain ou du poisson, quoique selon mon expérience, les enfants qui demandent du poisson sont plutôt rares. Nous avons été semés, la graine spirituelle a été semée dans l'Église, dans ce terreau du christianisme, culture chrétienne, bonne terre, et irriguée initialement par l'eau du baptême. Et pour croître, nous avons besoin en permanence de bonne nourriture, que l'apôtre Paul qualifie de lait spirituel et pur de la parole. Et comme le blé, il nous faut également bénéficier d'influences favorables à notre croissance. Et ça, c'est le second texte qui nous dit que Dieu donne des gens influents ou des textes influents, des conférences, ça peut être beaucoup de choses. Et non seulement des gens, mais son esprit qui construit aussi l'être spirituel en nous. Donc l'Esprit Saint, l'édification, la communauté, tout cela nous nourrit. Et cette nourriture est en fait rendue assimilable par notre foi. Notre foi qui se conjugue à notre capacité de raisonnement rend ces données externes à nous-mêmes à l'origine et les rend assimilables. Dans la croissance existe aussi une progression de la fragilité, de la vulnérabilité, à la résistance. Ce qui nous rend résistants, ce sont des épreuves, ce sont des mises à l'épreuve. Le grand coup de vent, la tempête, la pluie, l'orage, le coup de froid, pour les plantes, ça, ce sont des épreuves qui leur sont imposées par la météo, mais elles peuvent, allégoriquement, ces épreuves peuvent aussi arriver dans notre vie, dans notre croissance spirituelle. Ce sont les confrontations difficiles à nos semblables, à des situations, voire d'autres tribulations, que sont les maladies, les accidents et les souffrances, psychiques ou physiques. Et cette météo variable de notre vie spirituelle implique en général de la souffrance. Faut-il que tous les chrétiens souffrent ? Je ne le souhaiterais pas, mais je pense que malheureusement, oui, la souffrance fait partie, peu ou prou, du cheminement chrétien, parce que il y a plusieurs sources d'influence. On souffre pour notre édification, mais pas pour n'importe quelle raison. La souffrance occasionnelle est inévitable, parce que deux sources d'influence concourent ensemble à notre maturation, la source extérieure, choses qui viennent du milieu, milieu spirituel, culturel, ecclésial, et la source intérieure, notre tempérament, notre culture, et tout ce que nous sommes dans notre tempérament. Et alors, certaines choses sont plus favorables que d'autres à notre croissance spirituelle. Prenons un exemple. Dans notre société laïque, mondaine, ce qui nous entoure, mais sans être chrétien, on nous bassine à longueur de vie avec le message qu'il faut vivre avec notre temps. Il faut vivre avec son temps, il faut s'adapter et il faut suivre l'évolution de la société. Ben, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Mais est-ce que toutes les influences sont bonnes ? Ce que le monde laïque qualifie d'évolution ou de progrès est parfois un environnement très problématique pour notre marche spirituelle. Je vous cite l'exemple des mœurs, où par exemple, la merveilleuse évolution tant prônée consiste par exemple à libéraliser le lien exclusif du couple pour l'étendre à un partenariat occasionnel, multiple. Ça, c'est très bien vu dans une grande partie de la société, ou bien faciliter l'élimination d'enfants à naître pour des motifs qui sont bien éloignés du danger pour la mère ou pour l'enfant lui-même, ou bien à dissocier l'identité sexuelle des partenaires et le mariage. Voilà un genre d'évolution merveilleuse qui ne correspond pas du tout à ce que nous qualifions de progrès vers un état supérieur, spirituellement parlant. Qu'est-ce qu'un état supérieur spirituellement parlant ? C'est un état de purification progressive. Et je vais terminer sur ce chapitre-là. Être chrétien consiste à avoir une relation de disciple avec Jésus-Christ. Et on peut dire chacun à sa façon. On n'est pas des clones, on n'a pas tous le même substrat familial et ecclésial. Et depuis le début de l'évangile jusqu'à l'ascension, les relations entre les disciples et Jésus ont évolué de manière différenciée. Ils ont vécu peut-être les mêmes événements, mais ils n'ont pas réagi de la même manière. Preuve en est ces réactions très contrastées des uns et des autres. Et pourtant, ils parviendront à une unité sans équivalent dans l'histoire. Chacun évolue dans sa relation au Christ à partir de la révélation de l'Évangile qu'il a reçu. On ne se trouve pas tous au même stade de la croissance, et ça a un côté très réconfortant face aux dégâts que cause la comparaison. Comparaison, par exemple, dans la mode. Ça crée des dégâts terribles. Et maintenant, on va regarder un peu les éléments de cette maturation. Venons-en à notre fameux nombre 40. Alors, je vous ai dit, on ne va pas dans la Kabbale. Et ce nombre est fréquent. Il désigne souvent une durée. Il peut désigner des choses, des personnes, mais il désigne souvent une durée en jours ou en années. Sa fréquence n'est probablement pas un hasard. Et je vous cite quelques mentions rapidement. Le déluge, 40 jours. L'exploration des espions hébreux qui allaient dans le pays de Canaan, 40 jours. L'exil de Moïse après le meurtre de l'Égyptien, avant le buisson ardent, là c'était 40, mais 40 ans. L'errance des Hébreux dans le désert entre l'Égypte et Canaan, 40 ans. Le jeûne de Moïse sur la montagne quand il a reçu les tablettes, 40 jours. Le Philistin Goliath qui provoque le roi David pendant 40 jours. Élie reçoit un repas qui lui donne une force particulière pour faire une marche de 40 jours. Le prophète Jonas donne une échéance à Ninive, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Jésus baptisé entre en tentation dans le désert et ne mange pas pendant 40 jours. Jésus ressuscité apparaît à ses disciples avant l'ascension pendant 40 jours. Ces diverses citations ne nous renseigne pas uniquement sur le nombre de jours ou l'année, ce n'est pas une quantité, mais c'est certainement aussi sur un temps particulier. Que ce soit pour Noé, Moïse, Élie, la ville de Ninive, Jésus, c'est une mise à l'écart, un délai de réflexion, un délai de maturation, une épreuve qui forme un peuple ou une personne ou une ville à un projet. Je suis toujours étonné de lire un verset qu'on sait tous par cœur, des Hébreux, qui parle de Jésus d'une manière très bizarre, à mon goût. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, donc Hébreux 5, 7 et 8, ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Et c'est le verset suivant qui est important. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Ça ne vous étonne pas? Moi, je trouve ça assez stupéfiant. Tout l'évangile nous montre que Jésus, effectivement, a dû souffrir, mais qu'une part de ses souffrances fut destinée à lui apprendre l'obéissance, me stupéfie. Mais c'est en tout cas un élément intéressant et significatif pour nous montrer qu'il était vrai homme et vrai Dieu. Et donc, l'apprentissage de l'obéissance montre la composante humaine, et la question de savoir si son ministère global le montrait plus divin ou plus humain est tout à fait secondaire. Il avait les deux composantes. Donc, une mise en quarantaine, je prends le mot d'une mise en quarantaine, parce que, de nouveau, c'est 40, hein, c'est un délai pour voir si la contagion existe chez quelqu'un. Une mise en quarantaine opérée par Dieu constitue un temps de transformation, un temps de maturation, une préparation d'une personne ou d'un peuple à une juste relation avec Dieu et une mise en condition d'accomplir une mission auquel Dieu le ou la destine. Ce temps limité mais concentré peut nous arriver et il n'est pas forcément chez tout le monde dramatique, mais il peut nous arriver. Afin de rendre possible un ministère ou un acte que Dieu veut, auquel Dieu veut nous associer. Et les 40 jours pendant lesquels Jésus ressuscité est apparu aux apôtres leur a permis d'assimiler les données qu'ils ne comprenaient pas. La résurrection, l'ascension, des choses extraordinaires qui leur échappaient complètement. Mais après cela, ils ont compris. Et c'était un temps pour intégrer définitivement dans leur vie tout ce qu'ils ne réalisaient pas ou qu'imparfaitement. Nous tous qui avançons de progrès en progrès sur ce chemin de la maturité spirituelle, sommes-nous au clair sur la finalité de ce chemin? Où va le chemin? Aurait-il fallu poser cette question au tout début, peut-être, tout début de l'exposé? Qu'est-ce que la maturité? L'état d'homme et de femme achevé spirituellement. L'achèvement de notre croissance spirituelle, notre maturité, est le résultat d'une purification. Quiconque a cette espérance en Christ se purifie comme lui-même est pur, disait l'apôtre Jean. Cette maturité est en réalité, elle est réalisée dans la conformité à Jésus-Christ, par cette nutrition permanente de la parole, de l'esprit, de notre foi, de notre réflexion. La pureté à atteindre n'est pas la pureté rituelle de l'Ancien Testament qui consistait en de nombreuses procédures. Notre pureté n'est pas procédurale, mais bien la pureté du contenu de notre foi. La pureté qui nous intéresse correspond en fait à la définition du dictionnaire. Le dictionnaire le plus basique va vous donner cette définition de la pureté au sens non spirituel, l'absence de mélange. Un élément pur est un élément sans mélange. Et si nous appliquons cette définition au contenu d'autrefois, cela signifie qu'un seul élément pur et que nous reconnaissons qu'un seul élément pur est la source du salut et de la vie éternelle, Jésus de Nazareth. Et la conclusion que nous pouvons en tirer, elle saute aux yeux, c'est que toute doctrine en vogue, à la mode, déclarant par exemple que le salut résulte de la convergence des religions, ça c'est très à la mode, y compris les plus opposés naturellement, eh bien c'est un mélange et la voie royale qui mène au chaos spirituel. Toute l'histoire judéo-chrétienne nous met en garde contre cela. « Vous serez saints, car je suis un Dieu saint, dit l'Éternel. Amen. »
Les paroles qui nous ont été dites ce matin nous placent devant nos responsabilités, c'est vrai. Est-ce que nous sommes véritablement des disciples de notre Dieu ? Il a parlé d'inachevé, d'achevé, d'inachevé. Eh bien, j'ai pensé à cette parole de Paul qui a pu dire « Je tends vers ce but ». Lui-même disait « Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je tends vers ce but ». Et je pense que c'est aussi notre souhait de tendre vers ce but. Et je vous donne l'occasion de pouvoir, par des prières libres, vraiment manifester ce que vous avez dans vos cœurs. Nous prierons.
Travailler à cette croissance jusqu'au jour où elle sera parfaite dans ta présence. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ.
Amen. 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 Avant le temps de Sainte-Cène, nous chanterons le chant 509, Tu es le Maître. Nous aurons maintenant le moment de Sainte-Cène. Comme il l'a déjà été dit, Jésus parlait souvent en parabole et il a été lu cette parabole du royaume comme une semence. Et je vous lirai une autre parabole qu'on a plus de peine à intégrer pour nous. C'est vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Bien sûr que cette parole s'adressait spécialement au ministère de Jésus, mais si nous sommes ses disciples, eh bien, nous devons aussi prendre cette parabole pour nous. Mais si l'on regarde un peu la portée de cette parabole, je dirais qu'il a été parlé de 40, il y a un temps aussi, et nous savons que Jésus a aussi eu ce temps qu'il a été sur la terre. C'est vrai que s'il était mort-né, si l'on peut dire, eh bien, l'impact n'aurait pas été le même. Et le grain de blé, avant qu'il meure, eh bien, il doit porter la vie. Et il faut cette image que nous avons à prendre en nous, c'est que le grain de blé, avant de mourir, il va porter la vie, il va mettre des racines, il va faire une plante. Eh bien, Jésus l'a fait dans ses 3 ans de ministère, hein, ses 30 ans de vie sur la terre, 3 ans de ministère, il a porté la vie. Et ce qu'il attend de nous aussi, c'est que nous portions la vie. Et ainsi, nous pouvons lire le verset qui suit. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Voilà, c'est la bénédiction de Dieu que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et nous pourrons prendre ce repas sachant que c'est Dieu qui nous demande, c'est Jésus qui nous invite à partager ce qu'il a fait pour nous.
Alors, nous lirons dans Luc 22, versets 19 et 20. Il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. »
Nous allons prier pour consacrer nos cœurs à l'action de l'Esprit devant ce repas. Seigneur, nous sommes émerveillé de ce projet réalisé, ce royaume qui est déjà parmi nous, dans notre cœur, et pour cette nourriture spirituelle qui nous est rappelée par ces signes du pain et du vin, qui nous rappelle cette grande réalité que ton corps et ton sang représentent le seul, ont été le seul sacrifice qui donne le salut, qui purifie notre conscience et qui nous permet d'envisager cette éternité en ta présence. Que ton esprit, son murmure doux et subtil, nous révèle cela intérieurement. Amen.
Est-ce que 2 personnes pourraient nous accompagner dans la distribution ? Le jus de raisin est au centre des plateaux et on suivra avec la coupe. Ceux qui désirent prendre la coupe, eh bien, peuvent le faire en levant la main. En termes d'action de grâce, eh bien, nous chanterons encore le chant 591.
Alors, on a beaucoup parlé de croissance ce matin, des différents éléments qu'il faut pour croître. Et pour que nos églises puissent croître et vivre, il y a un élément qui est aussi important, c'est l'argent. Donc maintenant, ce sera l'occasion de partager nos biens par l'offrande. Et pendant ce temps, nous chanterons numéro 490, « Seigneur, étends ta royauté ». Par ce moyen, de l'argent aussi peut étendre sa royauté.
Qui te revient.
Nous voulons encore prier. Merci Seigneur pour les biens dont tu nous combles chaque jour. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Et Seigneur, nous voulons te remettre cet argent que nous pouvons te redonner pour que vraiment ton Église sur la terre puisse grandir, que ta parole soit annoncée. Et nous voulons te remettre les personnes qui sont parties de notre communauté pour aller annoncer cette bonne parole. Te prions pour la famille Saillant, pour les deux familles Negrini, pour les Pillou, pour Olivier, et la famille Weffler. Nous te les remettons tous et nous te prions aussi pour toutes les activités de la FRE et de notre Église, pour notre pasteur et notre stagiaire et toutes les activités. Merci Seigneur parce que tu veux en faire profiter et que ta parole sera annoncée à Mérin comme elle le sera dans tout le monde. Amen. Alors, c'est le moment des annonces. Alors, c'est Roger ou Michel ? Je ne sais pas qui les commente.
Encore merci à Manon qui nous a préparé ces clichés. Donc je rappelle, premier dimanche de chaque mois, nous proposons un temps de prière si vous êtes venu avec un besoin, un fardeau. C'est dommage de repartir avec. Et donc il y a des personnes qui sont là, qui aimeraient prier avec vous. Donc n'hésitez pas à vous annoncer si tel est votre cas. Alors, vous avez peut-être remarqué les belles tables qui nous attendent à la sortie. Il y a un temps d'apéro et puis il y a le repas canadien où chacun est invité à rester. Et lors du repas canadien, c'est aussi l'occasion de découvrir plus sur l'association ASAFI qui agit en faveur des femmes au Congo. Découvrirez plus par la présentation, mais c'est une œuvre fantastique. Denise, tu as une précision?
La lettre numéro 10 des nouvelles d'Asafi est arrivée, vous pouvez vous servir sur les présentoirs.
Voilà, donc partez aussi avec ces informations. Voilà, c'est la famille Nold qui a la joie de voir leur garçon se marier samedi prochain avec Anne-Catherine Mutzner et toutes les informations sont sur le tableau. Nous les félicitons d'avance. Donc, comme c'était annoncé dimanche dernier, il y aura la récolte des paquets de Noël. Pour la deuxième année, nous avons la permission de récolter devant la COP. Et donc, on a besoin des personnes qui soient présentes et vous avez la possibilité de vous inscrire si vous êtes disponible. Merci. Vendredi 30 octobre, donc nous poursuivons notre réflexion sur la question de société que Philippe a évoquée, l'homosexualité. Et donc, nous avons un orateur qui nous vient de la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine, Nicolas Farelli, qui va nous aider dans nos réflexions. Donc, vendredi 30 octobre, 20h15, ou 20h, ce serait à préciser. Est-ce que c'est tout? Voilà, alors, c'est tout. Merci. Il y a encore un bébé qui est arrivé.
On prend toute la place ces derniers temps, mais c'était pour vous dire que Damien et Mélanie ont eu une petite fille. Donc ça c'est leur voilà. Elle s'appelle Lydia.
Merci. Nous avons célébré ça mardi.
Voilà, merci pour cette réjouissante dernière information. Alors, on l'a laissé entendre. On voulait faire une petite surprise. Nous allons nous bénir en invoquant la bénédiction du Seigneur par ce chant 240 qui va dans notre conclusion, dans notre thème, « Te ressembler, Jésus ». Voilà la bénédiction que nous invoquons. Merci.